Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent l'histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Delphine Horviller. Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Delphine Horviller, vous êtes rabbin, vous exercez au sein du mouvement juif libéral de France et je crois que ça n'a pas été facile pour vous de choisir une journée particulière.
Non, effectivement, vous m'avez posé la question, j'hésitais entre bien des moments. J'ai l'impression d'avoir la chance de vivre aujourd'hui un métier où aucune journée ne se ressemble. Voilà, d'avoir l'impression que finalement je pourrais pratiquement définir chaque jour comme dans sa particularité et en même temps... que j'ai la chance d'accompagner bien souvent des gens qui vivent des journées particulières, le moment d'un mariage, d'un enterrement bien sûr, d'un deuil, des moments critiques, parfois tristes, parfois gais de l'existence, et de devoir accompagner ce que sont des moments particuliers des gens qui arrivent une fois dans la vie.
Alors finalement, Delphine Horviller, vous avez choisi, vous avez réfléchi et vous avez choisi comme journée particulière le 10 novembre 2002. Ce jour-là, c'est le jour où vous décidiez de devenir rabbin.
Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent.
Delphine Horviller, on vient d'entendre les premières lignes du chapitre 12 de la Genèse. C'est ce texte qui a fait que vous êtes devenue aujourd'hui Madame le Rabbin.
Oui, ce texte, je l'avais entendu 1000 fois. C'est un texte très connu du début de la Genèse, le moment où Abraham entend cet appel. Et alors, il quitte Ur en Chaldée et il se met en route vers un ailleurs, vers une terre promise. Je l'avais lu, entendu, interprété de 1000 manières. Et puis un jour, à New York, j'assiste à un cours où quelqu'un l'interprète d'une manière si particulière. C'est un rabbin qui s'appelle le rabbin Norman Cohen. J'assiste à son cours ce jour-là, à New York, dans une salle où il y a peut-être des centaines de personnes. Et j'ai du mal à dire ce qui se passe en cet instant précis, mais sa lecture de ce texte et les questions qu'il nous pose à travers la lecture de ce texte produit en moi un tel écho qu'à un instant particulier, je me retourne et j'ai le sentiment d'être seule face à cet enseignant. Je me dis, c'est pas possible, en réalité, il est en train de me parler vraiment de moi. Et je sais pas si beaucoup de gens, je pense que beaucoup de gens ont vécu ça, en tout cas je le souhaite à beaucoup de gens, ce moment où vous apprenez quelque chose, on vous enseigne quelque chose et vous avez l'impression que votre enseignant vous a donné rendez-vous à vous et à personne d'autre, qu'il est en train de vous dire quelque chose que vous étiez venu entendre précisément et qui allait changer le reste de votre vie. Et voilà, autour de ce texte et d'un moment d'enseignement, d'écoute et d'étude, il y a quelque chose en moi qui bascule en cet instant.
Alors qu'est-ce qu'il a dit qui vous a fait basculer? Parce que vous le connaissiez ce texte, et quelle lecture en a-t-il fait pour que vous basculiez ce jour-là, ce 10 novembre 2002? Que s'est-il passé?
Alors bien entendu, c'est compliqué à résumer en une phrase. C'est presque... Quelqu'un m'a dit un jour que le propre des moments mystiques, c'est que si vous pouvez les raconter, c'est que vous n'y êtes plus. C'est-à-dire que le propre d'un moment mystique, c'est que c'est quelque chose qui reste de l'ordre de l'indicible. Si vous pouvez le raconter ou l'expliquer, c'est que vous en avez perdu quelque chose. Alors, je vais essayer en un mot de dire ce qui se passe pour moi à cet instant. C'est que ce texte du départ d'Abraham, il raconte que Abraham a rompu avec le passé, que quelque chose de sa mise en route est une rupture radicale avec les générations passées. Et on a tous tendance, à bien des moments dans notre vie, à nous dire qu'on a pris un chemin inédit, qui ne ressemble à celui de personne d'autre, qu'on a rompu avec le passé pour créer de l'inédit. Mais en fait, en cet instant, le rabbin Norman Cohen nous invite à lire le texte qui précède. Le texte qui précède et qu'on ne lit jamais quand on raconte l'histoire d'Abraham, c'est qu'à la génération précédente, on le trouve quelques versets plus haut, le père d'Abraham lui-même, qui s'appelle Terach dans le texte hébraïque, s'était lui-même mis en route vers la terre de Canaan. Alors, ça peut sembler anecdotique, sans importance, mais qu'est-ce que ça vient dire, ces quelques versets? Qu'en réalité, Abraham, quand il engage une rupture avec la génération précédente, ne fait d'une certaine manière que de reproduire le geste de la génération précédente qui elle-même s'était mise en route par rapport à ses propres parents. Et tout à coup, c'est clair pour moi l'idée que dans nos voyages et dans nos coupures, il y a toujours à la fois de la rupture et de la continuité. Et qu'en réalité, chacun de nous s'inscrit parfois dans les moments où il se croit en rébellion dans de la continuité, et dans des moments où il se croit dans la continuité, en rébellion vis-à-vis de quelque chose. Et tout à coup, ça me parle, parce que ça me permet de regarder mon histoire familiale.
Oui, voilà, c'est ça. Ça a résonné avec votre histoire familiale et aux questions que vous vous posiez sur comment devenir qui l'on est et comment faire avec son héritage familial.
Oui, je crois que j'avais été toute ma vie, mais en réalité, comme beaucoup de gens, coincée entre deux questions. Est-ce que je me devais de continuer la route, de transmettre? Et peut-être que c'est vrai, dans une famille juive, c'est des questions qui se posent beaucoup plus tôt aux enfants. De quelle manière on est les héritiers d'une histoire, qui a souvent une histoire douloureuse, et de quelle manière cette histoire nous oblige, et on devoir porter la continuité et la transmission de cette histoire, de ces rites, de cette identité. Et l'autre question, c'est la question du nouveau, de l'inédit, de quelle manière ma vie ne va pas ressembler à une autre, de quelle manière je vais créer du neuf, de l'inédit. Et moi qui avais toujours été d'une certaine manière écartelée entre ces deux questions, en cet instant, ce texte, eh bien, il réconcilie tout ça dans mon existence. Et il me permet, chose incroyable, d'envisager le rabbinat. Quelque chose, alors ça paraît presque comme une révélation, j'ai du mal à en parler parce que j'ai l'impression c'est un peu comme si je vous racontais une récit un peu d'une allumée, vous voyez,
oui,
quelque
c'est
chose.
Ça. Une révélation, mais une question de révélation.
Mais voilà, il y a quelque chose en cet instant qui fait sens, qui me permet de dire que c'est possible pour moi de m'inscrire dans le rabbinat parce que c'est à la fois, bien sûr, une rupture en tant que femme, mais en même temps pleinement de la continuité par rapport au passé.
Et alors là, ça, la formule divine que Dieu dit à Abraham résonne encore une fois parce qu'il lui dit: va, va vers toi, va pour toi. Et ça, vous l'avez entendu pour vous, Delphine Horviller.
Oui.
Va pour toi, va vers toi.
Et pour moi, c'est le sens précis de l'exégèse, de l'interprétation des textes. C'est que si vous lisez ces textes en pensant qu'ils parlent à vos ancêtres, qu'ils parlent du passé, eh ben, ils n'ont rien à vous dire.
Non.
En réalité, ils peuvent vous parler si vous considérez qu'à travers ce récit du passé et ses personnages, il y a quelque chose qui parle de vous et qui parle pour vous et qui parle à travers vous pour l'avenir.
Alors en 2002, Delphine Horviller, Norah Jones faisait un tabac avec son premier album qu'on devait entendre à New York, je pense.
I waited till I saw. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I
I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Delphine Horviller, est-ce que vous sortiez un peu à New York pendant vos études rabbiniques? Vous alliez écouter de la musique?
Oui, j'allais à... oui, je sortais beaucoup. C'était un moment aussi de grande liberté, j'ai l'impression, oui. Pour moi. Voilà,
Parce que ce n'est pas évident, comme image, qu'on ait cette image-là, justement, des études rabbiniques.
Oui, mais en découvrant New York, ce qui a tout changé pour moi, c'est vrai que j'ai découvert un monde avec une immense créativité, y compris au sein de la pensée religieuse, qui n'avait pas été le monde dans lequel j'avais grandi, moi, en France. Mmh. Et ensuite, j'ai vécu au Proche-Orient, à Jérusalem, et c'est pas non plus ce que j'avais vécu là-bas. Et à New York, tout à coup, je découvrais que au sein des synagogues, il y avait des artistes en résidence, il y avait la possibilité de réfléchir à de la création musicale, à des gens qui dessinaient, qui peignaient. Il y avait un dialogue qui, tout à coup, semblait possible aussi. Une pensée religieuse beaucoup plus progressiste que tout ce que j'avais pu expérimenter ailleurs. Donc ça a été un moment pour moi d'ouverture d'esprit à des voies nouvelles.
Alors le 10 novembre 2002, c'est votre journée particulière, Delphine Horviller. Ce jour-là, vous décidiez de devenir rabbin alors que vous suiviez un cours sur l'histoire d'Abraham. Et c'est en quelque sorte Abraham qui vous a montré le chemin.
Hitch.
Va.
Hij.
Va.
Atalkas.
Ne pleure pas.
Hij.
Va.
Hiwatintabuk.
Va, vis et deviens.
Telikasahun.
Et ne reviens pas.
Alazaudazindatimalis.
Ne reviens pas avant.
Hij.
Va. Delphine Horviller, vous fermez les yeux.
Cette scène du film Va, vie et deviens, elle me bouleverse. Je vous remercie de l'avoir choisie, en fait. Bon, c'est... l'histoire, pour ceux qui connaissent pas ce film magnifique, c'est l'histoire d'un petit garçon chrétien dans un camp du Soudan qui, tout à coup, sa mère l'envoie vers un groupe de juifs éthiopiens qui va pouvoir faire son alia, immigrer vers Israël et être sauvé. Et elle fait le choix de la vie pour ce petit garçon en lui disant « Fais-toi passer pour un autre, va, vis et deviens et ne reviens pas ». Effectivement, c'est presque... il revit presque le voyage d'Abraham, ce petit garçon, en cet instant. Moi, ce qui me bouleverse, c'est le choix de cette mère qui entre en résonance avec le choix qu'ont fait bien des mères dans des moments tragiques dans l'histoire de choisir la vie, même si ça voulait dire pour eux le drame et la déchirure, mais voilà, de laisser partir leurs enfants. Ouais. Quelque chose de difficile à faire. Alors peut-être que c'est la mère juive aussi qui parle traditionnelle en moi avec tous les clichés de la
mère juive.
De la mère juive.
Vous avez écrit là-dessus.
Mais voilà, c'est une scène bouleversante d'arrachement et de choix de la vie. Moi, j'ai l'impression qu'elle voilà, qu'elle résonne avec, avec la vie de tout un chacun, la vie de toute mère à un moment donné. Moi, j'y pense souvent dans les moments dans le judaïsme, dans plein, bien des rituels où il est question de laisser partir l'enfant.
Ouais.
Où il est question de, voilà, de laisser de la place, de devenir, avec toutes les douleurs qui accompagnent ça.
Et c'est là-dessus que vous réfléchissez, parce que vous aussi, d'une certaine manière, pendant ce cours sur Abraham, vous entendez que vous devez partir, que c'est en partant que vous pourrez advenir et devenir qui vous êtes. C'est bien ça aussi, ça résonne avec le chemin que vous avez fait, ce film. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous bouleverse autant de l'entendre, parce que rien ne vous prédestinait, d'une certaine manière, à être rabbin, Delphine Horviller. Vous avez grandi dans un milieu où les femmes n'étaient pas rabbins, vous n'aviez jamais vu ça.
J'avais aucun modèle de ça en grandissant. Moi, j'ai grandi dans un monde plutôt traditionnel, traditionaliste, où effectivement, au sein, on va dire, du monde juif que je pouvais fréquenter, les rôles étaient très clairs, des uns et des autres, la place des uns, la place des autres. En même temps, je grandissais dans une famille où l'égalité homme-femme était quelque chose de très important, même de l'ordre d'une évidence, et j'avais souvent l'impression qu'il y avait un décalage entre ce qu'étaient les valeurs de ma vie quotidienne, de civile, on va dire, ouais. L'école que je fréquentais, les principes de ma famille, et tout à coup, dès qu'on poussait la porte de la synagogue, mais c'est vrai aussi quand on pousse les portes des églises ou des mosquées aujourd'hui, c'est troublant de voir que pour beaucoup de gens qui les fréquentent et qui ont au quotidien des valeurs d'égalité homme-femme, dès qu'on pousse voilà une porte de la synagogue, d'un lieu de culte, tout à coup il y a une différence qui est faite, il y a des valeurs qui sont tout à coup plus nécessairement cohérentes par rapport à celles dans lesquelles on grandit. Donc non, rien ne me prédestinait à devenir rabbin, mais le rapport au texte m'a toujours été très très cher. C'est-à-dire que la question de la lecture et de l'interprétation a toujours fait partie de mon monde. Mais j'étais à des années-lumière d'imaginer que ça m'emmènerait vers le rabbinat. Il fallait pour ça que je fasse bien des virages. Moi, je pense très souvent à cette phrase. Il y a un vieux proverbe chassidique juif qui dit « Ne demande surtout pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît parce que tu risquerais de ne pas te perdre.
» Vous êtes un peu perdu.
Oui, mais je suis extrêmement... Enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour mes égarements, en réalité, pour ces moments où je me suis plantée, ces moments où j'ai pris des mauvaises routes. Où
vous voulez parler des études de médecine en Israël
Oui, je suis partie convaincue que j'allais devenir médecin, avec beaucoup de certitude sur là où j'allais vivre. Ouais. Comment j'allais vivre et ce que j'allais faire. Et puis tout à coup, à un moment donné, je me suis dit non, finalement, c'est peut-être pas mes rêves. C'est peut-être les rêves d'autres gens. Je me suis peut-être pris sur les épaules les choses qui n'étaient pas ce que je voulais vraiment faire. Des moments où on se dit, tiens, je peux encore changer de voie, je peux devenir autre chose. Voilà. J'ai fait des virages, j'étais journaliste pendant quelques années, ce que je ne regrette pas. Mais tout ça, c'était comme des éléments d'un puzzle, d'un égarement nécessaire.
Ou d'un cheminement, on pourrait
dire. D'un cheminement qui m'ont construit. Et j'aurais jamais pu être là où je suis si j'avais pris une ligne droite.
Voilà.
En fait.
Est-ce que votre, je crois que vous avez un grand-père qui était rabbin,
qui avait fait des études rabbiniques,
qui avait fait des études. Et c'est, oui. Est-ce que c'est ce grand-père-là qui vous a dit un jour, j'imaginais autre chose pour
oui.
toi. C'est le même.
Oui, c'est mon grand-père a une, j'en parle souvent, il a une importance considérable dans ma vie. Il avait fait des études de rabbin et finalement il avait décidé de ne pas devenir rabbin. Ah. C'est-à-dire que lui aussi avait changé d'avis. En fait, on n'a jamais su exactement pourquoi. D'ailleurs, il est devenu finalement enseignant. Il était proviseur d'un grand lycée de la République. Et puis, j'étais très proche de lui. Et un jour, quand je lui ai annoncé que je partais vivre à Jérusalem et que j'allais devenir médecin, il y a eu un moment de silence où il m'a dit « Ah, j'aurais imaginé autre chose pour toi. » Et il n'a pas voulu me dire quoi sur le moment. Et moi, j'étais très vexée de sa réponse. Je raconte souvent ce moment comme un moment où j'ai l'impression qu'il piétinait mes rêves de petite fille, de jeune fille. Et en fait, ce moment a été un vrai moment de bénédiction pour moi, parce que c'est un moment où une figure tutélaire dans ma vie me disait « j'imagine autre chose, ça veut dire que toi aussi tu peux ».
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'imaginer autre chose pour soi.
On n'a pas fini de dire qui on peut être, qui on pourrait être. Et c'est vrai que ce sujet, moi, il m'obsède. En réalité, je n'enseigne que là-dessus. Et je n'écris presque que là-dessus, sur cette idée que à chaque fois qu'on essaie de vous enfermer dans une identité, ou à chaque fois que vous vous laissez convaincre par le fait que votre identité est un identique à vous-même, que l'identité serait de l'ordre de la répétition à l'identique, de la reproduction inchangée de quelque chose qu'on vous a donné et que vous transmettrez au suivant. Vous êtes dans une formule morbide et mortifère de vous-même.
Ouais.
Parce que, en réalité, votre identité, c'est d'être en route par rapport à là où vous étiez, dans la possibilité d'aller vers un ailleurs. Et on revient toujours et encore à cette phrase d'Abraham, en réalité. Abraham, il va vers un ailleurs, il vient pas de nulle part.
Non.
Il vient de quelque part. Mais ce qui va le définir, c'est de cette mise en route.
Comment ont réagi vos parents, vos proches, vos amis quand vous leur avez annoncé que vous alliez devenir rabbin? C'était une transgression quand même.
Oui, c'était surtout un peu une idée loufoque, originale pour eux. Alors ils avaient l'habitude de mes rebondissements d'une certaine manière. Donc,
de vos égarements.
Mais voilà, je suis partie, voilà, je suis revenue du Proche-Orient, je suis partie aux États-Unis, j'ai étudié de la médecine, j'ai arrêté. J'étais ensuite journaliste à la télévision pendant quelques années, j'ai arrêté. Donc mes parents avaient l'impression qu'ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Je me souviens du jour où j'ai annoncé, je me promenais dans Central Park avec mon père et je lui ai dit, j'envisage de devenir rabbin. Et là, il a pris sa tête dans ses mains. Oi, 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 c'était bon. Qu'est-ce que c'est que cette... Autant il me suivait très fortement dans l'idée d'étudier. Il comprenait très bien mon attirance pour l'étude et l'exégèse et l'interprétation. Mais de là à devenir rabbin, c'était un peu sans doute too much. Mais finalement, ils m'ont toujours beaucoup soutenue. Et je suis très reconnaissante à mes parents, finalement, de m'avoir beaucoup soutenue dans mes chemins, parfois mes chemins de traverse ou mes idées... original, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
De laisser les enfants faire ça.
Quel souvenir vous gardez de votre ordination rabbinique?
C'était un moment extrêmement émouvant. Bien sûr, ce jour-là, on était 18 rabbins à devenir rabbins, à avoir une ordination rabbinique. 9 hommes et 9 femmes. On était précisément à parité, ce qui peut paraître...
À New York.
À New York, voilà. À New York, il y a beaucoup de femmes rabbins, et ce depuis longtemps. Et donc, c'était pas très original, mon parcours à New York. J'étais entourée de beaucoup de femmes qui faisaient les mêmes études que moi. Je me souviens très bien que ce jour-là, donc, il y avait beaucoup de femmes qui devenaient rabbins, et il y avait, beaucoup d'entre nous étaient mariés. Il y avait les maris des rabbins qui étaient là, assis dans la salle. Et ce jour-là, c'est très drôle, ils avaient imprimé un t-shirt. Nos maris portaient tous le même t-shirt sur lequel il y avait écrit « Real men marry rabbis ». Une phrase en anglais qui c'est « Les vrais hommes, ils épousent des rabbins », qui était bien sûr un clin d'œil historique à ce qui, finalement, s'est pas beaucoup produit.
Non, c'est pas beaucoup produit, et ne se produit encore pas beaucoup, et pas du tout en France, puisque vous êtes trois, hein, c'est ça?
On est trois femmes rabbins, il y en a plusieurs en formation. À l'heure actuelle, il y en aura de plus en plus. Donc dans les années à venir, plusieurs sont en formation à l'étranger, mais on peut pas pour l'instant recevoir d'ordination rabbinique en France, quand
alors,
on a une femme.
C'est pour ça que vous étiez partie aux États-Unis. Vous êtes devenue rabbin, et alors le mouvement juif libéral de France vous a proposé de prendre vos fonctions à la synagogue de Beaugrenelle. C'était il y a 10 ans à peu près, c'est ça?
Précisément.
Chère Delphine, il est légitime que la communauté souhaite te voir installée parmi les fidèles et dans nos murs. Mais toi, tu ne dois jamais t'installer, c'est-à-dire imaginer que tu as touché au port et que tu peux poser tes valises. La fonction de rabbin, c'est tout le contraire de cet état d'esprit. Tu seras souvent partagé entre un pouvoir excessif que t'attribueront ceux que tu approcheras, un sentiment d'impuissance à résoudre tous leurs problèmes, et une infinie solitude au moment d'agir. Sois forte et vaillante, que la bénédiction divine t'accompagne dans ta vie communautaire comme dans ta vie familiale. Amen.
J'arrive officiellement pour repartir en congé maternité. Il s'agit certes d'un départ temporaire, mais qui à mes yeux rend cette cérémonie d'accueil d'autant plus symbolique, puisque je suis accueillie ici au moment où je m'apprête à accueillir un nouvel être. Et cette situation est peut-être assez inédite à l'échelle de l'histoire juive, puisque, bizarrement, ces derniers siècles, les rabbins ont rarement pris des congés maternité.
Vous ne manquez pas d'humour, Delphine Horviller. C'est très drôle de vous voir. C'est un extrait d'un reportage qui a été diffusé sur France Télévisions. On vous voit toute ronde et vous vous amusez bien. Ça vous amuse bien d'être enceinte à ce moment-là, non?
Oui, je crois qu'il y avait un effet comique. Enfin, on a entendu le rabbin Daniel Fary qui m'accueillait ce jour-là. Et je crois qu'on était tous conscients que... Oui, ça fait partie de ces moments particuliers, sans doute pour une communauté, d'accueillir un nouveau rabbin. Mais là, je crois que pour beaucoup de gens, et peut-être pour une certaine génération de gens plus anciens dans la communauté, accueillir un rabbin qui est une femme et qui en plus a un très gros ventre.
Oui, enceinte jusqu'au cou.
Vraiment, j'étais très enceinte. J'ai accouché 10 jours plus tard. Ça avait quelque chose qui était peut-être, là encore, un peu too much pour certaines personnes. Je crois que c'était pas une évidence pour certains. La féminité conjuguée avec la fonction rabbinique, même des gens gens qui avaient une grande ouverture d'esprit. Au départ, c'était loin des images qu'ils avaient de ce que doit être, de ce que peut être un rabbin, dans la façon dont il peut incarner justement le modèle, un modèle assez masculin ou paternel. Mmh. Moi, je pouvais pas, je ne peux toujours pas incarner cette figure-là. Je me souviens de conversations troublantes avec certains membres de la communauté. Je me souviens notamment d'une conversation un jour avec un vieux monsieur qui m'avait dit... au début, l'idée d'une femme rabbin me dérangeait beaucoup, mais finalement, j'aime tellement vos offices que j'ai fini par oublier que vous étiez une femme.
Ce qui était quelque chose. Comment faut-il l'entendre?
Voilà, c'est terrible. Mais finalement, dans sa bouche, je crois que c'était un compliment. Ça voulait dire que quelque chose de ce féminin qui peut-être le perturbait au départ avait été, entre guillemets, neutralisé pour que je puisse devenir le rabbin de sa communauté.
C'est quoi un rabbin? C'est un prêtre? C'est comme un prêtre?
Pas du tout. En fait, c'est souvent le malentendu qu'il y a quand on parle de rabbin, surtout dans un contexte, on va dire, de culture chrétienne ou catholique. Les gens s'imaginent que le rabbin, c'est comme un prêtre pour les juifs. En fait, pas du tout. C'est pas du tout un sacerdoce. Le rabbin, c'est un pasteur, on va dire, quelqu'un qui accompagne des fidèles, mais c'est surtout quelqu'un qui est reconnu par une communauté ou par des gens qui voient en lui un rabbin, qui est reconnu pour son érudition, sa capacité à les guider, à les accompagner et à faire un voyage entre, à permettre en fait une traduction permanente entre leur expérience, leur vie et les textes. C'est en fait, ça, c'est quelqu'un qui fait la jonction entre le texte et l'humain.
C'est ça, vous considérez Delphine Horviller comme une traductrice?
Oui, quand j'essaie de définir ce qu'est pour moi le rabbinat, ce qui s'en approche le plus, c'est le métier de traducteur. Quelque chose qui est de l'ordre de la tentative de créer un pont entre un récit sacré de l'autre qu'on accueille et un texte, ou la façon dont, à travers un médium, on va traduire cette expérience sacrée en s'efforçant que le texte ou l'humain ne prennent pas le pas l'un sur l'autre, et surtout dans une conscience humble que on fait toujours des mauvaises traductions. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est jamais capable complètement dans l'écoute de se mettre à la place de l'autre, parce que les mots qu'utilise l'autre sont toujours de l'ordre d'un lost in translation, d'un intraduisible pour vous. Et même chose pour le texte. Quand vous approchez un texte, il faut toujours avoir une conscience humble que ce que vous lui faites dire n'est pas nécessairement ce qu'on a voulu qu'il dise ou ce qu'on y a lu. On peut faire qu'une traduction qui est toujours partiellement une trahison. Et donc notre responsabilité de lecteur, c'est juste de savoir faire de ces textes une traduction de vie et pas une traduction de mort.
Voilà. On va écouter Amos Oz qui parle de la traduction et je pense que ça va vous plaire.
Traduire une œuvre littéraire, c'est comme jouer un concert pour le violon au piano. On peut le faire. On peut le faire de façon réussie, même à une seule condition. Très dur. Il ne faut jamais essayer de contraindre le piano à sonner comme un violon. Donc, je dis à mes différents traducteurs, ne soyez pas fidèles aux mots, soyez fidèles à la mélodie. Et je sais que la traduction, c'est une transformation. J'ai parlé un jour d'une traduction de poésie. C'est difficile parce que la poésie, c'est comme une plaisanterie familiale. On dit au sein de la famille, on parle des aubergines de Tata Genia. Tout le monde rigole. Et ceux qui ne sont pas de la famille, ils ne comprennent pas. Donc, il y a une façon de traduire qui est la façon de trouver l'équivalent, trouver le parallèle. Et je crois que le bon traducteur est un créateur. Et le bon traducteur, pour moi, est associé à la création.
Delphine Horviller.
C'est extraordinaire. Voilà, je pense que cette phrase résume tant de choses d'un rapport au texte, voilà, d'un rapport à la parole de l'autre. Moi, je pense très souvent à ça aussi quand je fais du dialogue interreligieux, quand je rencontre voilà des chrétiens, des musulmans, qu'on essaie de parler ensemble de tout ce qui nous rapproche, de tout ce qui nous distancie aussi, de nos désaccords. Le plus difficile dans l'exercice du dialogue interreligieux, c'est que vous devez accepter dès le départ que vous ne comprenez pas la langue de l'autre et que même quand il parle votre langue, c'est-à-dire même quand on parle en français, il y a quelque chose qu'on peut pas traduire. Par exemple, quand je fais du dialogue interreligieux et que je me retrouve au milieu d'un groupe chrétien et que on me parle de foi, moi juive, je ne comprends pas ce qu'on veut me dire. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un effort pour comprendre comment ce mot de foi va se traduire dans mon univers, dans ma poésie personnelle, dans mon univers mental et mon lexique à moi.
Oui, dans votre champ lexical, j'allais dire.
Dans mon champ lexical. Et en fait, c'est toujours un lost in translation. Il y a quelque chose qui peut pas se traduire. Il faut pas faire semblant de croire qu'on comprend ce que dit l'autre. En fait, c'est un exercice. C'est difficile, en fait. Même chose, voilà, dans le dialogue interreligieux, quand des musulmans parlent de soumission, quand des juifs parlent de commandement. C'est des mots qui appartiennent tout naturellement à notre lexique. Mais il faut accepter que pour l'autre, il y a un temps, une latence de traduction et de compréhension. Et donc, c'est un exercice, encore une fois, d'humilité, à mon avis.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Delphine Orvillard, je pense que vous comprenez pourquoi on a mis cette chanson de Stromae. On commençait avec Abraham, le père, notre père, le père des trois monothéismes, et cette chanson arrivait... Ouais. Parfaitement.
Oui, parce que tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait les papas, c'est vrai. En tout cas, c'est mon avant-dernier livre, s'appelait « Comment les rabbins font les enfants ?» Mais il aurait pu s'appeler « Comment les rabbins font les parents ?» En réalité, la question qui m'intéresse, moi, c'est comment on est créé aussi comme parents. On ne fait pas juste des enfants, mais il y a quelque chose à travers nos enfants qui nous crée. Vous savez, en hébreu, il y a... quelque chose de très particulier dans la façon dont on s'appelle. Le nom, un nom en hébreu, quand on dit « comment t'appelles-tu ?», eh bien, en général, les gens disent qu'il s'appelle un tel, fils ou fille d'un tel. On doit toujours inscrire son nom dans une filiation. Mmh. Donc, son prénom, fils ou fille du prénom de ses parents. Mais cette phrase en hébreu, elle a un double sens. Quand je dis que je m'appelle, par exemple, Delphine fille de Michel, qui est le nom de mon père, eh bien, en réalité, en hébreu, je dis simultanément que je m'appelle Delphine, qui construit Michel. Donc en fait, notre nom raconte qu'on est les enfants de nos parents, mais qu'en réalité, par notre existence, on les a édifiés, on les a bâtis. Et je crois que quand on devient parent, on comprend très bien le sens de cette phrase, qu'en réalité, nos enfants nous construisent. Quelque chose de leur chemin va nous édifier presque à rebours du temps.
Alors vous utilisez cette chanson de Stromae, vous en parlez là, vous en parliez dans votre précédent livre « Comment les rabbins font des enfants ». Mais c'est aussi une chanson que vous utilisez dans vos sermons, Delphine Orvillard. Et dans vous pouvez aussi utiliser Jean-Jacques Goldman. Et je trouve que dans vos sermons, vous ne manquez jamais de malice. C'est toujours très drôle de vous écouter. C'est très intéressant, mais c'est très drôle aussi.
Selon la tradition juive, Moïse bégayait. Étrange infirmité que celle-là pour un leader choisi par Dieu pour dialoguer avec son peuple. Toujours est-il que de très nombreuses histoires juives tournent en dérision ce détail et mettent en scène cette infirmité. La plus célèbre blague, vous la connaissez sans doute, raconte que dans le désert, les Hébreux demandent à Moïse vers quel pays il les emmène, quelle est donc cette terre promise où coule le lait et le miel. Et alors Moïse leur indique une direction en disant et les Hébreux se mettent immédiatement en route vers Canaan. Mais lorsqu'ils aperçoivent enfin la terre et son environnement plutôt hostile, ils se tournent vers Moïse et lui disent « Mais enfin, c'est ça que tu appelles une terre où coule le lait et le miel ?» Et Moïse leur répond « Mais j'ai pas dit Canaan, j'ai dit Canada. » Moïse n'est pas le seul héros biblique à souffrir d'un handicap. Isaac était aveugle, Jacob boitait, les matriarches étaient stériles. Mais il faut bien avouer que le bégayement de Moïse a de quoi surprendre encore davantage. Pourquoi cet homme, à la parole entravée, devait être notre porte-parole ? J'ai décidé aujourd'hui de réfléchir avec vous au sens de cette altération du langage. Que signifie exactement bégayer dans notre tradition ?
Et là, Delphine Horvillard, on vous retrouve parce que bégayer dans la tradition juive, ce n'est pas reproduire l'identique. Et là, on vous retrouve aussi dans vos thèmes qui vous sont chers sur l'héritage, la transmission, la répétition, la rupture et la continuité. En fait, j'ai l'impression que dans vos sermons, vous ne cessez d'interroger ces mêmes questions qui vous ont fait devenir rabbin.
Oui, c'est toujours la question de comment existe un décalage entre ce qui a été dit et ce qu'on va entendre. En fait, ce que le bégaiement permet, c'est de comprendre que celui qui dit une phrase va pas nécessairement être compris par l'oreille de celui qui l'entend et que se crée toujours un petit décalage entre la parole et l'écoute, entre ce qu'on a voulu dire et ce que ça peut dire. Alors c'est le ressort classique de l'humour juif, ça en fait. Ah, il y a un nombre incalculable de blagues juives qui se construisent sur l'idée d'un malentendu, littéralement. C'est-à-dire que vous croyez avoir compris ce que l'autre vous dit, mais il y avait un sens caché, un deuxième sens. Et ce décalage de sens qui crée le rire, et en fait, est un exercice d'exégèse, c'est un exercice d'interprétation, mais que l'humour vient traduire de cette manière.
C'est-à-dire c'est que vrai. C'est ce que vous faites, pardon, je vous coupe, c'est oui. Ce que vous faites, Delphine Horvillard, c'est d'aller chercher le malentendu oui. Dans les textes. Bah,
moi, je pense que le malentendu, c'est le moment où le texte vous révèle qu'il n'a pas fini de parler. C'est-à-dire que le texte vous dit, si tu t'imagines que tu as compris une fois pour toutes ce que je voulais dire, tu es à côté de la plaque. En fait, je peux encore parler à condition que tu tendes l'oreille et t'acceptes les brisures du texte, les imperfections, alors les bégayements de Moïse, ou effectivement toutes les failles des héros du texte. C'est quand même surprenant que tous les héros du texte ou presque sont des gens qui vivent un handicap. Et tous ont cette forme d'infirmité qui aurait pu les disqualifier dans l'exercice de leur leadership. Mais c'est précisément parce que quelque chose en eux est boiteux ou défaillant ou encombré qu'il y a la possibilité pour eux de se relever, d'en faire quelque chose. Et dans ce décalage entre ce qui aurait pu les condamner et la possibilité de la résilience, eh ben, nous est racontée à nous, lecteurs, la possibilité de faire dire au texte autre chose, c'est-à-dire de faire dire à nos vies autre chose. Et ça, effectivement, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est le sens de la transmission. On ne fait que dire à nos enfants, sois suffisamment à l'écoute de mon monde pour continuer quelque chose, mais sache y être suffisamment infidèle pour l'emmener vers un ailleurs. Voilà. Moi, je crois que la transmission, c'est toujours un équilibre subtil entre de la mémoire et de l'amnésie, entre quelque chose qu'il faut porter et transporter et transmettre au-delà de soi, et la conscience que celui qui s'en empare, eh ben, il va l'entendre autrement, il va le traduire autrement, et il vous sera partiellement infidèle pour que ça reste en vie.
Pour que ça reste en vie, parce que ce que vous voulez, ce que vous défendez, c'est un judaïsme de la vie. Vous voulez libérer les Juifs, enfin comment peut-on le dire, de la Shoah, de aussi libérer de cet héritage lourd, faire que cet héritage n'empêche pas de vivre, de célébrer la vie. Et en ça, vous questionnez l'héritage oui. De la Shoah.
Mais je le fais d'une certaine manière précisément parce que je pense que cette mémoire, elle est essentielle et qu'elle est constitutive de qui on est. Bien évidemment que dans l'identité juive, mais j'ai envie de dire dans l'identité humaine, il y a un avant et après la Shoah. Mmh. Et je crois que c'est parce qu'il faut s'en souvenir et qu'on a un devoir que cette mémoire soit vive, qu'à aucun moment il faut lui laisser tout dire de qui on est. Mais ce que je vous dis là sur ce traumatisme de la Shoah, il peut s'appliquer en réalité à n'importe quelle expérience dramatique de nos histoires. C'est pas une histoire juive, en réalité. Je pense que dans la vie, quand il nous arrive quelque chose, quand on a été victime de quelque chose, eh bien, nous est toujours donné la possibilité de raconter cette histoire comme si elle disait tout de nous. C'est-à-dire comme si on était uniquement le récit de ce qui nous est arrivé. Ou bien on a la possibilité de raconter ce qui nous est arrivé et de nous en souvenir. Mais dans ce récit, être tellement acteur de ce récit qu'on ne le laisse pas tout dire de nous. On pourrait dire la même chose pour MeToo, par exemple, aujourd'hui, pour cet accès à la parole de très nombreuses femmes qui vont raconter ce qu'elles ont vécu, ce qui leur est arrivé. Et cet accès à la parole, il est historique, il est extraordinaire, mais l'accès à la parole, il a de sens que si ce récit permet à la victime de raconter qu'elle n'est pas qu'une victime. Si ce récit vous enferme dans cette condition de victime, alors il est presque délétère, en fait. L'accès à la parole est essentiel s'il vous permet de vous raconter et de reprendre le contrôle de votre histoire.
Et c'est ça que vous essayez d'enseigner, Delphine Horvillers, dans la synagogue de Beaugrenelle à Paris.
Oui, mais j'essaie de l'enseigner, et c'est pour ça que j'essaie aussi d'écrire des livres qui soient grand public. C'est que je pense que j'essaie d'enseigner avec, on va dire, le langage, le lexique ou la poésie du judaïsme, parce que c'est mon langage naturel, mais j'essaie d'enseigner quelque chose qui, bien entendu, et j'espère que c'est clair, n'est pas un enseignement pour les juifs. En réalité, je crois qu'aujourd'hui, on a tous à se poser la question, comment avec nos lexiques à nous, nos univers de pensée, nos poésies personnelles, on a la possibilité, avec ces langages particuliers, de contribuer à un débat, qui est un débat national, un débat politique, mais un débat universel aussi. Et donc, j'aspire à ce que ça puisse parler à d'autres. Parce que cette question de la transmission, vraiment, elle, c'est même pas une question du monde religieux, c'est une question humaine, une question de tout parent, de tout enfant, de tout être qui se pose la question de comment il s'inscrit dans une lignée.
Écoute, je suis pas coiffeuse, arrête de bouger, j'y arrive pas. Bah, écoute, enlève ça, c'est horrible.
J'essaie de me sentir juif. C'est très délicat, les rôles juifs. Si tu en fais juste un peu, on dit il exagère. Si tu en fais beaucoup, on dit il a parlé à juif. Qu'est-ce que c'est, avoir l'air juif?
C'est à moi que tu demandes ça? Arrête de bouger.
Écoute, Mayo. Écoute. J'adore cette chanson.
Delphine Horvillers, vous avez reconnu cet extrait de film? C'est le dernier métro. Ah, Lucas Steiner, dans sa cave, caché pendant l'occupation à Paris, avec Catherine Deneuve qui lui coupe les cheveux. Et il se met un faux nez, une caricature de nez juif, un nez busqué énorme, et il s'interroge sur c'est quoi avoir l'air d'un juif. Et je me disais que c'était parfait pour introduire votre réflexion, votre dernier livre et vos réflexions sur la question antisémite, Delphine Horvillers. Parce que aux juifs, on reproche toujours tout et son contraire, il en fait pas assez ou il en fait trop, à tous les coups, c'est ça.
Toujours, tout et son contraire. On a reproché aux juifs dans l'histoire d'être trop riche ou trop pauvre, trop intégré ou pas assez intégré, d'être trop capitaliste ou trop bolchevique. Et la liste est très très longue, en fait. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une cohérence particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui a pour moi poussé l'écriture de ce livre, c'est de voir comment les juifs s'en sont emparés dans leur littérature ou dans leurs blagues ou dans leur humour ou dans l'exégèse, dans le commentaire. En fait, il y a une conscience particulière de ce qu'a été le regard de l'autre sur nous. Et parfois une capacité dans l'humour juif, c'en est une trace particulière, mais on vient de l'entendre, à presque revendiquer ce dont on nous a accusé, c'est-à-dire à faire au cœur l'humour juif, c'est bien souvent presque un humour antisémite détourné. Ouais. On nous a accusé de quelque chose, eh ben on va faire semblant d'être vraiment de coller au cliché, mais cette fois-ci, c'est nous qui décidons quand on va en rire.
Et alors, il y a une blague formidable que vous relatez dans votre livre. Peut-être vous voulez nous la raconter.
Oui, c'est une blague célèbre qui dit que deux juifs lisent la presse et puis il y en a un des deux qui se rend compte que l'autre est en train de lire la presse antisémite. Alors il lui dit, mais pourquoi tu lis ce torchon atroce? Et l'autre lui dit, écoute, quand je lis ce journal, je me rends compte qu'on détient les banques, on a tout le pouvoir, on a tout l'argent, puis bon, ça fait du bien. Voilà, cette idée de croire aux clichés antisémites peut parfois nous faire du bien, voilà, alors que c'est bien entendu tout ça est absurde et grotesque, mais l'humour juif avait des ressorts de résilience particuliers pour s'en relever et pour s'en relever encore.
Pour s'en relever encore, parce que c'est ça que vous voulez dire, hein. On peut s'en relever, c'est-à-dire ça va continuer l'antisémitisme, mais on s'en relèvera. C'est ça aussi que disent les textes, et c'est ça aussi que vous voulez faire passer.
Les rabbins dans le Talmud, très très tôt en fait, ils sont comme conscients que la haine des juifs, on ne pourra pas en venir à bout.
Non.
Parce qu'en réalité, elle dit toujours quelque chose de celui qui l'énonce, elle dit rien de celui contre qui à qui elle s'adresse. Elle dit quelque chose de l'incapacité presque existentielle de l'antisémite ou de la psyché antisémite à vivre avec les failles, à vivre avec l'incomplétude, à vivre avec la peur de la contamination, de la porosité du monde. Finalement, le juif, il a toujours incarné ça aux yeux de l'antisémite. Voilà, ce qui menace mon monde dans sa complétude, dans sa pureté. Dans sa totalité. Et donc, on ne viendra pas à bout de ça. Mais on peut voir dans quelles circonstances ça surgit. On peut donner des clés aux générations suivantes pour le voir apparaître, peut-être s'en prémunir un peu, mais en tout cas, toujours s'en relever. Finalement, ce qui est insupportable pour les antisémites, c'est que le juif soit increvable. Quelque chose du juif reste toujours vivant. Il y a bien des civilisations qui ont disparu, des civilisations anciennes, mais les juifs, eux, ils sont toujours là. C'est énervant à la fin.
Ils sont excédents.
Ils sont, voilà, il y a quelque chose qui reste increvable, qui reste en vie. Et ça, en réalité, on pourra pas leur retirer.
Document in its place, your money, your
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Delphine Horviller, l'année 2002 commence avec l'entrée en vigueur de l'euro. En janvier, le sociologue Pierre Bourdieu disparaît. En février, Slobodan Milosevic comparaît devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. En 2002, c'est Le Pen et Chirac au second tour des élections présidentielles. C'est un choc. 2002, c'est aussi la libération de Maurice Papon, aux fonctionnaires de Vichy, dont on suspend la peine, alors qu'il a été condamné à 10 ans de prison pour crime contre l'humanité pour des raisons de santé par la Cour d'appel de Paris. En 2002, Delphine Horviller, c'est une année où il y a plein d'attentats sur le territoire israélien. Un attentat dans un hôtel à Netanya, un nouvel attentat en Galilée, en représailles, une partie de la Moukata est détruite à Ramallah. Et le 14 avril 2002, le gouvernement d'Ariel Sharon décide de construire une barrière de séparation officiellement destinée à protéger Israël des terroristes.
Je pense que voilà, la construction des murs, ça reste d'actualité aujourd'hui, un peu partout dans le monde. On est plutôt dans un temps où on construit des murs très hauts et très épais, et où on s'attaque à tous ceux qui construisent des ponts ou des fenêtres dans ces murs. Je vous remercie d'avoir rappelé que, effectivement, la construction de ce mur, interprétée d'une manière ou d'une autre, elle intervient chronologiquement dans un temps qui suit des mois d'attentats et de terrorisme. Et souvent, on raconte l'histoire de la construction de ces murs comme s'ils arrivaient de nulle part, comme si un beau jour, quelqu'un se dit « je vais construire un mur ». Moi, je suis pas pour la construction des murs en général, mais je pense qu'on fait rien avancer quand on raconte pas dans quel état d'esprit peuvent être ceux qui les construisent. C'est-à-dire que la peur, elle est parfois légitime. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de s'engager dans la construction des fenêtres ponts. Et des ponts.
Vous vous employez quand même, vous, Delphine Horviller, à construire des ponts. Tout à l'heure, vous parliez du dialogue interreligieux. Vous avez écrit un livre avec Monsieur Benzine. Vous êtes là, vous essayez de parler, de dialoguer, de comprendre les mots des autres.
Voilà, c'est le cœur de ce que j'espère être mon engagement, construire des ponts. J'avais lancé l'idée à Paris il y a quelques années qu'on organise des dîners de ponts. Elle n'a pas encore été reprise, cette idée, sur la formule des dîners de cons, d'organiser des dîners où on se retrouverait sur les ponts à Paris.
Mais l'année 2002 a été une année assez terrible, Delphine Horviller. On a eu un peu de douceur avec Bachoun qui sortait un disque magnifique, L'Imprudence, et aussi avec la sortie du film Amélie Poulain qui remportait le César cette année-là.
Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma.
J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
Au premier qui arrive au bout de la passerelle.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais. Par contre, j'aime pas dans les vieux films américains quand les conducteurs regardent pas la route.
Amélie n'a pas d'homme dans sa vie. Elle a bien essayé une fois ou deux, mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin.
Ouais, c'est joli. Hein. Oui, c'est un film qui a marqué toute une génération, bien sûr, qui est incroyablement poétique, magnifique, et en même temps qui pose la question que je trouve très d'actualité aujourd'hui encore, politiquement, qui est la question de la nostalgie. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce film. Et la nostalgie, ça peut être la chose la plus douce qui soit. Et ça peut vous emmener vers un ailleurs. Et en même temps, chez certains, la nostalgie, c'est exactement ce qui vous empêche d'aller ailleurs. On le voit aujourd'hui dans certains slogans politiques. Il est toujours question d'un bon vieux temps qu'on fantasme et qui bien souvent est une fiction qui n'a pas existé, mais auquel les gens se raccrochent pour surtout pas accueillir du nouveau qui pourrait surgir dans leur vie. Ça. Donc c'est en fait le double effet de la nostalgie. Ça peut être la plus douce des poésies, qui vous donne un ancrage et qui vous permet de voyager. Et ça peut être au contraire ce qui vous sédentarise dans un passé et qui peut vous rendre potentiellement très aigri.
Merci Delphine Horviller d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre « Réflexion sur la question antisémite » est publié aux éditions Grasset, le livre précédent aussi, hein, « Comment les rabbins font des bébés ». La revue que vous dirigez, la revue des pensées juives, Ténoua, on peut la lire où ?
Alors, on peut la commander d'abord en ligne, www.tenoua.org. Tous les points de vente sont précisés sur le site et on peut s'y abonner via ce site internet.
C'était une journée particulière. Merci, merci Norvilla. C'était une émission préparée par Rebecca de Nantes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Guillaume Roux. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster toutes les émissions sur le site de franceinter.fr. Tout de suite, après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier. À la semaine prochaine.